voudrais un petit peu affiner les thèses ou hypothèses que j'ai avancées la dernière fois à propos de l'art de gouverner, à propos de ce que je crois être un nouvel art de gouverner qui a commencé à se formuler, à se réfléchir, à se dessiner à peu près au milieu du XVIIIe siècle. Ce nouvel art de gouverner, je crois qu'il est essentiellement caractérisé par la mise en place de mécanismes à la fois internes, nombreux, complexes, mais qui ont pour fonction, et c'est dans ceci, si vous voulez, que se marque la différence par rapport à la raison d'État, ces mécanismes ont pour fonction non pas tellement d'assurer la croissance en force, richesse, puissance de l'État, croissance indéfinie de l'État, mais qui ont pour fonction de limiter de l'intérieur l'exercice du pouvoir de gouverner. Ah bah c'est un autre. Cet art de gouverner, je crois qu'il est bien sûr nouveau dans ses mécanismes, nouveau dans ses effets, nouveau dans son principe. Encore ne l'est-il que jusqu'à un certain point. Parce qu'il ne faut pas imaginer que cet art de gouverner constituerait la suppression, l'effacement, l'abolition, l'aufhebung, comme vous voudrez, de cette raison d'État dont j'avais essayé de vous parler la dernière fois. En fait, il ne faut pas oublier que ce nouvel art de gouverner, ou encore cet art de gouverner le moins possible, cet art de gouverner entre un maximum et un minimum est plutôt du côté du minimum que du maximum, bien cet art, il faut bien considérer que c'est une sorte de redoublement, enfin disons de raffinement interne de la raison d'État. C'est un principe pour son maintien, pour son développement plus complet, pour son perfectionnement. Disons que ce n'est pas autre chose que la raison d'État, que ce n'est pas un élément externe et négatif, négateur par rapport à la raison d'État, c'est plutôt le point d'inflexion de la raison d'État dans la courbe de son développement. Je dirais, si vous voulez, pour faire un mot qui n'est pas bon, que c'est la raison du moindre État à l'intérieur et comme principe organisateur de la raison d'État elle-même. Ou encore, disons, c'est la raison du moindre gouvernement comme principe d'organisation de la raison d'État elle-même. Il y a quelqu'un, malheureusement, j'ai pas pu arriver à retrouver ça dans mes papiers, mais je le retrouverai certainement et je vous le dirai. Il y a quelqu'un qui a parlé, à la fin du XVIIIe siècle, bien sûr, d'un gouvernement frugal. Bien, je crois qu'en effet, on entre à ce moment-là dans une époque qu'on pourrait appeler celle du gouvernement frugal, ce qui ne manque pas, bien sûr, de présenter un certain nombre de paradoxes, puisque c'est pendant cette période du gouvernement frugal, inauguré au XVIIIe et dont nous ne sommes sans doute pas encore sortis, c'est dans cette période du gouvernement frugal qu'on va voir se développer eh bien, toute une pratique gouvernementale à la fois extensive et intensive, avec les effets négatifs, avec les résistances, les révoltes, etc., que l'on connaît précisément contre ces envahissements d'un gouvernement qui pourtant se dit et se veut frugal. Disons ceci, c'est que cette extension, ce développement extensif et intensif du gouvernement, qui se veut pourtant frugal, eh bien, ce développement n'a pas cessé, et c'est en ceci qu'on peut dire qu'on est dans l'âge du gouvernement frugal, il n'a pas cessé d'être hanté de l'extérieur et de l'intérieur par la question du trop et du trop peu. En forçant les choses et en les caricaturant, je dirais ceci, que quelle que soit de fait l'extension et le développement intensif aussi de ce gouvernement, eh bien la question de la frugalité a été au cœur même de la réflexion qui a tourné autour de lui et qu'on lui a posée. La question de la frugalité s'est sinon substituée, du moins elle a doublé et jusqu'à un certain point fait reculer, marginaliser un peu, une autre question qui était celle qui a hanté au contraire la réflexion politique du XVIe, XVIIe, mais début du XVIIIe siècle encore, et qui était le problème de la Constitution. Monarchie, aristocratie, démocratie, etc. Toutes ces questions-là, bien sûr, ne disparaissent pas pour autant, mais autant, c'était les questions fondamentales. J'allais dire les questions royales au XVIIe et au XVIIIe siècle, autant à partir de la fin du XVIIIe, pendant tout le XIXe, et bien sûr, de nos jours, plus que jamais, c'est la question de la frugalité du gouvernement, et non pas celui de la constitution des États, qui est le problème sans doute fondamental. Question de la frugalité des gouvernements, c'est bien la question du libéralisme. Bon, bien, je voudrais maintenant reprendre deux ou trois points que j'avais évoqués la dernière fois pour essayer de les préciser et de les affiner. J'avais essayé de vous montrer la dernière fois que cette idée, ce thème, ce principe régulateur plutôt d'un gouvernement frugal s'était formé à partir de ce qu'on pouvait appeler, de ce que j'ai désigné grossièrement comme le branchement sur la raison d'État et le calcul de la raison d'État d'un certain régime de vérité, lequel se trouvait son expression et sa formulation théorique dans l'économie politique. Apparition de l'économie politique et problème du moindre gouvernement, c'était, j'ai essayé de vous l'indiquer, deux choses qui étaient liées. Mais je crois qu'il faut essayer de préciser un peu la nature de ce branchement. Bon, quand je dis branchement de l'économie politique sur la raison d'État, est-ce que ça veut dire que, eh bien, l'économie politique a proposé un certain modèle de gouvernement? Est-ce que ça veut dire que les hommes d'État, en gros, se sont initiés à l'économie politique ou qu'ils ont commencé à écouter les économistes? Est-ce que le modèle économique est devenu principe organisateur de la pratique gouvernementale? Bon, c'est évidemment pas cela que j'ai voulu dire. Ce que je voulais dire, ce que j'ai essayé de désigner, c'était quelque chose qui est, je crois, d'une nature et d'un niveau un peu différent. Ça serait ceci. C'est le principe de ce branchement que j'essaie de repérer, ce branchement entre pratique de gouvernement et régime de vérité. Que je veux dire, ça serait donc qu'il y avait quelque chose qui, dans la régime de gouvernement, la pratique gouvernementale du XVIe, XVIIe siècle, du Moyen-Âge déjà aussi, avait constitué un des objets privilégiés de l'intervention, de la régulation gouvernementale, quelque chose qui avait été l'objet privilégié de la vigilance et des interventions du gouvernement, et c'est ce lieu lui-même, et non pas la théorie économique, c'est ce lieu lui-même qui, à partir du XVIIIe siècle, va devenir un lieu et un mécanisme de formation de vérité. Et ce lieu de formation de vérité, au lieu de continuer à le saturer d'une gouvernementalité réglementaire indéfinie, on va, et c'est là où la chose se passe, on va reconnaître qu'il faut le laisser jouer avec le moins d'intervention possible pour que, justement, il puisse éformuler sa vérité et la proposer comme règle et norme à la pratique gouvernementale. Bon, ce lieu de vérité, c'est bien entendu, non pas la tête des économistes, mais le marché. Bon, disons les choses, si vous voulez, plus clairement. Le marché. Le marché tel qu'il a fonctionné, au sens très général du mot marché, tel qu'il a fonctionné au Moyen-Âge, au XVIe ou XVIIe siècle, eh bien, je crois qu'on pourrait dire d'un mot que ce marché, c'était essentiellement un lieu de justice. Un lieu de justice en quel sens? En plusieurs sens. D'abord, c'était un lieu, bien sûr, qui était investi d'une réglementation extrêmement proliférante et stricte. Réglementation quant au marché, quant aux objets, pardon, à apporter sur le marché, quant au type de fabrication de ces objets, quant à l'origine de ces produits, quant aux droits qu'il fallait acquitter, quant aux procédures même de vente, quant aux prix fixés, bien sûr. Donc, lieu investi de réglementation, tel était le marché. C'est également un lieu de justice, en ce sens que le prix de vente qui était fixé dans le marché était considéré aussi bien d'ailleurs par les théoriciens que par les praticiens, comme un prix juste, ou en tout cas un prix qui devait être le juste prix, c'est-à-dire un prix qui devait entretenir un certain rapport avec le travail fait, avec les besoins des marchands, avec les besoins, bien sûr, et les possibilités des consommateurs. Lieu de justice au point que le marché devait être un lieu privilégié de la justice distributive, puisque vous savez bien que pour le marché, au moins, d'un certain nombre de produits fondamentaux, comme les produits alimentaires, les règles de marché faisaient que on s'arrangeait pour que, sinon les plus pauvres, du moins certains des plus pauvres puissent bénéficier, puissent acheter des choses aussi bien que les plus riches. Le marché était donc en ce lieu, en ce sens, un lieu de justice distributive. Enfin, c'était un lieu de justice dans la mesure où ce qui devait être essentiellement assuré dans le marché, par le marché ou plutôt par les réglementations du marché, c'était quoi? C'était la vérité des prix, comme nous dirions maintenant? Pas du tout. Ce qui devait être assuré, c'était l'absence de fraude. Autrement dit, c'était la protection de l'acheteur. La réglementation du marché, elle avait pour but, donc, d'une part, la distribution aussi juste que possible des marchandises, et puis, le non-vol. Le non-délit. Autrement dit, le marché était perçu à cette époque-là, au fond, comme un risque que prenait peut-être le marchand d'un côté, mais à coup sûr, l'acheteur de l'autre. Et il fallait protéger l'acheteur contre le danger que constituait une mauvaise marchandise et la fraude de celui qui la vendait. Il fallait donc assurer cette absence de fraude quant à la nature des objets, quant à leur qualité, etc. Bon, ce système, réglementation, juste prix, sanction de la fraude, faisait donc que le marché était essentiellement fonctionné réellement comme un lieu de justice, un lieu où devait apparaître dans l'échange et se formuler dans le prix quelque chose qui était la justice. Disons que le marché était un lieu de juridiction. Bon, or, c'est là que le changement se produit, pour un certain nombre de raisons que j'évoquerai tout à l'heure. Le marché est apparu au milieu du XVIIIe siècle comme n'étant plus, ou plutôt comme ne devant plus être, un lieu de juridiction. Le marché est apparu comme, d'une part, quelque chose qui obéissait et devait obéir à des mécanismes naturels, c'est-à-dire à des mécanismes spontanés, même si on n'est pas capable de les saisir dans leur complexité, mais spontanés, tellement spontanés, que si on entreprenait de les modifier, on ne pouvait que les altérer et les dénaturer. Pratique gouvernementale. C'est le marché, par conséquent, qui va faire qu'un bon gouvernement, ce n'est plus simplement un gouvernement qui fonctionne à la justice. C'est le marché qui va faire que le bon gouvernement, ce n'est plus tout simplement un gouvernement juste. C'est le marché qui va faire que le gouvernement, maintenant, pour pouvoir être un bon gouvernement, devra fonctionner à la vérité. L'économie politique, ce n'est donc pas l'importance de l'économie politique dans toute cette histoire et dans la formation d'un nouvel art de gouverner. L'économie politique ne doit pas son rôle privilégié au fait qu'elle dicterait au gouvernement un bon type de conduite. L'économie politique a été, jusque dans sa formulation théorique, quelque chose d'important, dans la mesure seulement, mais c'est évidemment considérable, où elle a indiqué où le gouvernement devait aller trouver le principe de vérité de sa propre pratique gouvernementale. Disons, en termes simples et barbares, que le marché, de lieu de juridiction, qu'il était encore jusqu'au début du XVIIIe siècle, est en train de devenir, à travers toutes ces critiques que j'évoquais d'ailleurs l'an dernier à propos des disettes, du marché des gains, etc., donc le marché, de lieu de juridiction qu'il était, est en train de devenir un lieu que j'appellerais de véridiction. Le marché doit dire le vrai doit dire le vrai, par rapport à la pratique gouvernementale. C'est son rôle de véridiction qui va désormais, et d'une façon simplement seconde, commander, dicter, prescrire les mécanismes juridictionnels ou l'absence de mécanismes juridictionnels sur lesquels le marché devra s'articuler. Bon, eh bien, quand je parlais de ce couplage opéré au XVIIIe siècle entre un certain régime de vérité et une nouvelle raison gouvernementale, et ceci en liaison avec l'économie politique, je ne voulais pas dire du tout, donc, qu'il y aurait eu d'un côté formation d'un discours scientifique et théorique qui serait l'économie politique, et puis que les gouvernants, d'un autre côté, auraient été ou bien séduits par cette économie politique, ou bien obligés d'en tenir compte par quelque pression de tel ou tel groupe social. J'ai voulu dire que le marché, objet privilégié depuis fort longtemps de la pratique gouvernementale, et objet privilégié plus encore au XVIe et au XVIIe siècle sous le régime d'une raison d'État et d'un mercantilisme qui faisait précisément du commerce un des instruments majeurs de la puissance de l'État, eh bien j'ai voulu dire que le marché maintenant s'était constitué en un lieu de véridiction, et ceci non pas simplement, non pas tellement parce qu'on serait entré dans l'âge d'une économie marchande, c'est à la fois vrai mais ça ne dit rien précisément, non pas parce que des gens ont voulu faire la théorie rationnelle du marché, c'est bien ce qu'ils ont fait mais ça ne suffisait pas. En fait, il faudrait pour arriver à comprendre comment le marché, dans sa réalité, est devenu pour la pratique gouvernementale un lieu de véridiction, établir ce que j'appellerais une relation polygonale ou polyédrique, comme vous voudrez, entre une certaine situation monétaire qui était celle du XVIIIe siècle, avec d'une part un nouvel afflux d'or et une relative constance des monnaies, une croissance économique et démographique continue à la même époque, une intensification de la production agricole, l'accès à la pratique gouvernementale d'un certain nombre de techniciens porteurs à la fois de méthodes et d'instruments de réflexion, et enfin la mise en forme théorique d'un certain nombre de problèmes économiques. Autrement dit, je ne crois pas qu'il faille chercher. Et par conséquent, je ne pense pas qu'on puisse trouver la cause de la constitution du marché comme instance de véridiction. Ce qu'il faudrait faire, si on voulait analyser ce phénomène, je crois, absolument fondamental dans l'histoire de la gouvernementalité occidentale, cette irruption du marché comme principe de véridiction, eh bien je crois qu'on pourrait simplement effectuer par la mise en relation de ces différents phénomènes que j'évoquais à l'instant, la mise en intelligibilité de ce processus. Montrer en quoi il a été possible, c'est-à-dire, non pas ce qui est de toute façon une tâche vaine, montrer qu'il aurait été nécessaire, non pas non plus montrer que c'est impossible, un des possibles dans un champ déterminé de possible, disons simplement que ce qui permet de rendre intelligible le réel, c'est de montrer simplement qu'il a été possible. Que le réel soit possible, c'est ça, sa mise en intelligibilité. Bon, disons d'une façon générale, qu'on a là, dans cette histoire du marché juridictionnel puis véridictionnel, un de ces innombrables croisements entre juridiction et véridiction, qui est sans doute un des phénomènes fondamentaux dans l'histoire de l'Occident moderne. C'est bien un peu autour de ces problèmes-là que j'ai essayé d'organiser un certain nombre de problèmes. Par exemple, à propos de la folie. Bon, le problème, ce n'était pas de montrer, par exemple, que dans la tête des psychiatres s'était formée une certaine théorie ou une certaine science, ou un certain discours à prétention scientifique qui aurait été la psychiatrie et qui se serait concrétisé ou qui aurait trouvé son lieu d'application à l'intérieur des hôpitaux psychiatriques. Il ne s'agissait pas non plus de montrer comment des institutions d'enfermement existant depuis longtemps avaient à partir d'un certain moment secrété leur propre théorie, leur propre justification en quelque chose qui aurait été le discours des psychiatres. S'agissait d'étudier la genèse de la psychiatrie à partir et à travers des institutions d'enfermement qui étaient originairement et essentiellement articulées sur des mécanismes de juridiction au sens très large, puisqu'il se trouvait que c'était des juridictions de type policier, mais enfin, pour l'instant, à ce niveau-là, ça n'a pas tellement d'importance. Des institutions d'enfermement, donc articulées essentiellement et originairement sur des mécanismes de juridiction et qui, à partir d'un certain moment, et dans des conditions qu'il s'agissait précisément d'analyser, ont été à la fois soutenus, relayés, transformés, déplacés par des processus de véridiction. De la même façon, étudier les institutions pénales, ça voulait dire les étudier d'abord, bien sûr, comme des lieux et des formes où la pratique juridictionnelle était bien sûr majeure et on peut dire autocratique, eh bien, comment dans ces institutions pénales fondamentalement liées à une pratique juridictionnelle, eh bien, c'était former et développer une certaine pratique véridictionnelle qui commençait à mettre au cœur même du problème pénal, pas avec l'accompagnement, bien sûr, mais ce n'est pas ça tellement l'essentiel, de la criminologie, de la psychologie, etc., eh bien, qui avait mis en place cette question véridictionnelle qui est au cœur même du problème de la pénalité moderne et de son embarras, jusque à l'embarras même de sa juridiction, et qui était la question de la vérité posée au criminel, qui es-tu ? À partir du moment où la pratique pénale substitue à la question « qu'as-tu fait ?» la question « qui es-tu ?», à partir de ce moment-là, vous voyez bien que la fonction juridictionnelle du pénal est en train de se transformer, ou est doublée par, ou éventuellement est minée par, la question de la véridiction. De la même façon, étudier la généalogie de l'objet sexualité à travers un certain nombre d'institutions, ça voulait dire essayer de repérer dans des choses comme les pratiques de l'aveu, dans des choses comme la direction de conscience, dans des choses aussi comme le rapport médical, etc., eh bien, essayer de saisir le moment où se fait l'échange et le croisement entre une certaine juridiction des relations sexuelles, définissant ce qui est permis et ce qui est défendu, croisement donc entre cette juridiction et la véridiction du désir, qui est ce en quoi se manifeste actuellement l'armature fondamentale de l'objet sexualité. Bon, voyez que tout ceci, qu'il s'agisse du marché, qu'il s'agisse du confessionnal, qu'il s'agisse de l'institution psychiatrique, qu'il s'agisse de la prison, etc., de toute façon, dans tous ces cas-là, il s'agit d'aborder sous différents angles une histoire de la vérité, ou plutôt d'aborder une histoire de la vérité qui serait couplée dès l'origine avec une histoire du droit. Alors que, assez fréquemment, ce qu'on essaie de faire, c'est une histoire de l'erreur liée à une histoire des interdits. Ce que je vous suggérerais, c'est de faire une histoire de la vérité couplée avec l'histoire du droit. Histoire de la vérité, entendue, bien sûr. Non pas au sens où il s'agirait de reconstituer la genèse du vrai à travers des erreurs éliminées ou rectifiées. L'histoire du vrai qui ne serait pas non plus la constitution d'un certain nombre de rationalités historiquement successives, et qui s'établirait par la rectification ou l'élimination d'idéologies. Dans cette histoire de la vérité, cette histoire de la vérité ne serait pas non plus la description de systèmes de vérité insulaires et autonomes. Il s'agirait de la généalogie de régimes véridictionnels, c'est-à-dire, si vous voulez, l'analyse de la constitution d'un certain droit de la vérité, à partir d'une situation de droit, ce rapport droit et vérité étant évidemment trouvant sa manifestation dans privilégié dans le discours où se formule le droit et où se formule ce qui peut être vrai ou faux. Le régime de véridiction n'étant en effet pas une certaine loi de la vérité, le régime de véridiction étant l'ensemble des règles qui permettent à propos d'un discours donné, de fixer quels sont les énoncés qui pourront y être caractérisés comme vrais ou faux. faire l'histoire des régimes de véridiction, et non pas l'histoire de la vérité, et non pas l'histoire de l'erreur, et non pas l'histoire de l'idéologie, etc. Faire l'histoire de la juridiction. Bien, ça veut dire, bien sûr, qu'on renonce à entreprendre, une fois encore, cette fameuse critique de la rationalité européenne, cette fameuse critique de l'excès de rationalité européenne, dont vous savez bien qu'elle a sans cesse été reprise dès le début du XIXe siècle et sous différentes formes, depuis le romantisme jusqu'à l'école de Francfort. C'est bien toujours cette remise en cause de la rationalité avec la pesanteur de pouvoir qui lui serait propre, c'est bien cela qui a toujours été remis en question. Or, la critique du savoir que je vous proposerai ne consiste pas justement à dénoncer ce qu'il y aurait de, j'allais dire monotonement, mais ça ne se dit pas, alors ce qu'il y aurait de continuellement oppressif sous la raison, car après tout, croyez-moi, la déraison est tout aussi oppressive. Cette critique politique du savoir ne consisterait pas non plus à débusquer la présomption de pouvoir qu'il y aurait dans toute vérité affirmée, car croyez-moi aussi, le mensonge ou l'erreur sont tout autant des abus de pouvoir. La critique que je vous propose consiste à déterminer sous quelles conditions et avec quels effets s'exerce une véridiction, c'est-à-dire encore une fois un type de formulation relevant de certaines règles de vérification et de falsification. Par exemple, quand je dis que la critique consisterait à déterminer sous quelles conditions et avec quels effets s'exerce une véridiction, voyez bien que le problème ne consisterait pas à dire donc « regardez comme la psychiatrie est oppressive puisqu'elle est fausse ». Ça ne consisterait pas même à être un peu plus sophistiqué et à dire « regardez comme elle est oppressive puisqu'elle est vraie ». Ça consisterait à dire que le problème est de faire apparaître les conditions qui ont dû être remplies pour qu'on puisse tenir sur la folie. Mais ça serait la même chose sur la délinquance, mais ça serait la même chose sur le sexe. Quelles conditions ont dû être remplies pour qu'on puisse tenir des discours qui peuvent être vrais ou faux, selon des règles qui sont celles, eh bien, qui peuvent être celles de la médecine, ou celles de la confession, ou celles de la psychologie, peu importe, ou celles de la psychanalyse. En d'autres termes, pour qu'une analyse ait une portée politique, il faut qu'elle porte, non pas sur la genèse des vérités ou sur la mémoire des erreurs, savoir quand telle science a commencé à dire la vérité, quelle importance, se rappeler toutes les erreurs que les médecins ont pu dire sur le sexe ou sur la folie, ça en fait une belle jambe. Je pense que ce qui a une importance politique actuelle, c'est de bien déterminer quel est le régime de véridiction qui est instauré à un moment donné et qui est précisément celui à partir duquel vous pouvez maintenant reconnaître, par exemple, que les médecins du XIXe siècle ont dit sur le sexe tant de bêtises. Se rappeler que les médecins du XIXe siècle ont dit beaucoup de bêtises sur le sexe, ça n'a politiquement aucune importance. Seule a une importance la détermination du régime de véridiction qui leur ont permis de dire comme vrai et d'affirmer comme vrai un certain nombre de choses dont il se trouve d'ailleurs que l'on sait maintenant qu'elles ne l'étaient peut-être pas tellement. Voilà le point précisément où l'analyse historique peut avoir une portée politique. Ce n'est pas l'histoire du vrai, ce n'est pas l'histoire du faux, c'est l'histoire de la véridiction qui a politiquement son importance. Bon, voilà ce que je voulais vous dire à propos de cette question du marché, ou disons du branchement, d'un régime de vérité sur la pratique gouvernementale. Deuxième question, deuxième point sur lequel je voudrais un petit peu affiner ce que je vous disais la dernière fois. Je vous disais, vous vous souvenez que dans le régime de la pure raison d'État, la gouvernementalité, ou en tout cas la ligne de pente de la gouvernementalité, était sans terme, sans fin. En un sens, la gouvernementalité était illimitée. C'est bien ça, précisément, ce qui caractérisait ce qu'on appelait à l'époque la police, ce qu'on appellera à la fin du XVIIIe siècle et avec un regard déjà rétrospectif, l'état de police. Bon, l'état de police, c'est au fond un gouvernement qui se confond avec l'administration. Un gouvernement qui est entièrement administratif et une administration qui a pour elle, derrière elle, le poids intégral d'une gouvernementalité. Bon. Cette gouvernementalité intégrale, cette gouvernementalité à ligne de pente illimitée, j'avais essayé de vous montrer comment, de fait, elle avait eu, non pas exactement une limite, mais un contrepoids dans l'existence et d'institutions judiciaires, et de magistrats, et de discours juridique portant précisément sur le problème de quel est le droit du souverain à exercer son pouvoir et jusque dans quelles limites de droit on peut inscrire l'action du souverain. Donc, ce n'était pas complètement déséquilibré, ce n'était pas complètement illimité dans la raison d'État, mais il y avait un système à, si vous voulez, deux parties relativement externes l'une à l'autre. Bon, j'ai essayé de vous montrer, enfin, je vous ai indiqué aussi que dans le nouveau système, dans la nouvelle raison gouvernementale mise au point au XVIIIe siècle, eh bien, le système du gouvernement frugal, le système de la raison du moindre état, impliquait quelque chose de très différent, d'une part une limitation, et d'autre part une limitation interne. Bon, limitation interne, mais dont il ne faudrait tout de même pas croire que c'est une limitation qui soit de nature tout à fait différente du droit. C'est une limitation qui est malgré tout et toujours une limitation juridique, le problème étant précisément de savoir comment, dans le régime de la nouvelle raison gouvernementale, de cette raison gouvernementale auto-limitée, on peut formuler en termes de droit cette limitation. Vous voyez comme le problème est différent, puisque d'un côté, dans le système de l'ancienne raison d'État, vous aviez une gouvernementalité à tendance indéfinie, avec à l'extérieur un système de droit qui s'opposait d'ailleurs dans des luttes politiques concrètes et qu'on connaît bien entre le pouvoir royal en gros et les institutions et les tenants de l'institution judiciaire de l'autre. Là, on a affaire à un problème différent qui est la gouvernementalité devant bien s'auto-limiter. Comment est-ce qu'on va pouvoir formuler en droit cette auto-limitation sans que pour autant le gouvernement se trouve paralysé et sans également que soit étouffé, et c'est bien là le problème, ce lieu de vérité dont le marché était l'exemple privilégié et qu'il fallait à ce titre respecter. En termes clairs, le problème qui va se poser à partir de la fin du XVIIIe siècle, c'est celui-ci. S'il y a une économie politique, alors qu'en est-il du droit public? Ou encore, comment est-ce que l'on peut formuler, quelles assises est-ce qu'on peut trouver au droit qui va articuler l'exercice de la puissance publique dès lors qu'il y a au moins une région, et d'autres sans doute, où la non-intervention du gouvernement est absolument nécessaire, non pas pour des raisons de droit, mais pour des raisons de fait, ou plutôt pour des raisons de vérité. Limité par respect de la vérité, comment est-ce que le pouvoir, comment est-ce que le gouvernement va pouvoir formuler ce respect de la vérité en termes de loi à respecter? Ce couplage, qui maintenant nous paraît très bizarre, entre économie politique et droit public, après tout que les facultés de droit en France étaient longtemps, jusqu'à ces toutes dernières années, également des facultés d'économie politique, au grand malaise des économistes et des juristes, n'est en fait que le prolongement sans doute abusif en termes d'histoire d'un fait originaire fondamental, qui était qu'on ne pouvait pas penser l'économie politique, c'est-à-dire la liberté du marché, sans poser en même temps le problème du droit public, à savoir la limitation de la puissance publique. On en a d'ailleurs la preuve dans un certain nombre de choses précises et concrètes. Après tout, les premiers économistes, ils étaient en même temps des juristes et des gens qui posaient le problème du droit public. Beccaria, par exemple, théoricien du droit public essentiellement sous la forme du droit pénal, était aussi un économiste. Adam Smith, il suffit de lire La richesse des nations, par même les autres textes d'Adam Smith, pour voir que le problème du droit public traverse entièrement toute cette analyse. Bentham, théoricien du droit public, était en même temps un économiste et a écrit un livre d'économie politique. Et après tout, en dehors de ces faits qui montrent l'appartenance originelle du problème de l'économie politique au problème de la limitation de la puissance publique, eh bien, vous le retrouverez sans arrêt alors dans les problèmes posés au cours du 19e et du 20e siècle sur la législation économique, sur la séparation du gouvernement et de l'administration, sur la constitution d'un droit administratif, sur la nécessité ou non de l'existence de tribunaux administratifs spécifiques, etc. Ce n'est donc pas une disparition du droit que j'évoquais la dernière fois en parlant de l'auto-limitation de la raison gouvernementale, mais le problème posé par la limitation juridique d'un exercice du pouvoir politique que les problèmes de vérité imposés de fixer. Donc, si vous voulez, déplacement du centre de gravité du droit public, ce n'est plus tellement le problème fondamental, essentiel du droit public, ça ne va plus être tellement, comme c'était au XVIIe ou XVIIIe siècle, le problème de comment fonder la souveraineté. L'institution pourra légitimement exercer ses droits, mais comment mettre des bornes juridiques à l'exercice d'une puissance publique. Schématiquement, on peut dire que ce problème de la formulation juridique de la limite de la puissance publique, eh bien, élaboration, on lui a proposé à la fin du 18e et au début du 19e essentiellement deux voies. L'une que j'appellerais, si vous voulez, la voie axiomatique, juridico-déductive, qui fut jusqu'à un certain point la voie de la Révolution française. Ça consiste à quoi? Bien, si vous voulez, enfin, on pourrait l'appeler la voie rousseauiste également. Ça consiste à partir, justement, non pas du gouvernement et de sa nécessaire limitation, mais de partir du droit. Du droit dans sa forme classique. C'est-à-dire, essayer de définir quels sont les droits naturels ou originaires qui appartiennent à tout individu. Définir ensuite dans quelles conditions, à cause de quoi, selon quelles formalités, idéales ou historiques, certains ont accepté une limitation ou un échange de droits. Ça consiste aussi à définir ceux des droits dont on a accepté la cession et ceux des droits, au contraire, dont aucune cession, pour laquelle aucune cession n'a été accordée et qui reste. Par conséquent, en tout état de cause et sous tout gouvernement possible ou encore sous tout régime politique possible, des droits imprescriptibles. Enfin, à partir de là, et à partir de là seulement, une fois ainsi défini le partage des droits, la sphère de la souveraineté et les limites de droits de la souveraineté, alors on peut en déduire, mais en déduire seulement, ce qu'on peut appeler les frontières de la compétence du gouvernement, mais dans le cadre fixé par l'armature constituant la souveraineté elle-même. Autrement dit, cette démarche consiste, en termes clairs et simples, à partir des droits de l'homme pour arriver à la délimitation de la gouvernementalité, en passant par la constitution du souverain. Je dirais que c'est la voie, en gros, révolutionnaire. C'est une manière de poser d'entrée de jeu et par une sorte de recommencement idéal ou réel de la société, de l'État, du souverain et du gouvernement, poser par cette espèce de recommencement le problème de la légitimité et de l'incessibilité. Politiquement, et si elle a été historiquement, la démarche des révolutionnaires est une démarche qu'on peut dire rétroactive ou rétroactionnaire, dans la mesure où elle consiste à reprendre le problème de droit public qui était celui que les juristes avaient et n'avaient pas cessé d'opposer à la raison d'État du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et c'est dans ceci, si vous voulez, qu'entre les théoriciens du droit naturel du XVIIe siècle et les, disons, les juristes, les législateurs de la Révolution française, vous avez une continuité. Bon, l'autre voie, elle consiste non pas justement à partir du droit, mais à partir de la pratique gouvernementale elle-même. Partir de cette pratique gouvernementale et essayer de l'analyser. De l'analyser en fonction de quoi? En fonction des limites de fait qui peuvent être posées à cette gouvernementalité, limites de fait qui peuvent venir du droit, qui peuvent venir, pardon, de l'histoire, qui peuvent venir de la tradition, qui peuvent venir d'un état de choses historiquement déterminé, mais qui peuvent être aussi et qui doivent être aussi déterminés comme les limites en quelque sorte souhaitables, les bonnes limites à établir en fonction, bien justement, des objectifs de la gouvernementalité, des objets auxquels elle a affaire, des ressources du pays, sa population, son économie, etc. Bref, l'analyse du gouvernement, de sa pratique, de ses limites de fait, de ses limites souhaitables, et dégager à partir de là ce à quoi il serait pour le gouvernement soit contradictoire, soit absurde de toucher. Mieux encore et plus radicalement, dégager ce à quoi il serait pour le gouvernement inutile de toucher. Inutile. C'est-à-dire que la sphère de compétence du gouvernement va être définie maintenant, et si on suit cette voie, comment ? À partir justement de ce qu'il serait utile et inutile pour le gouvernement de faire et de ne pas faire. La limite de compétence du gouvernement sera définie par les frontières de l'utilité d'une intervention gouvernementale. Poser à un gouvernement, à chaque instant, à chaque moment de son action, à propos de chacune de ses institutions, vieilles ou récentes, la question « est-ce utile ? À quoi c'est utile ? Dans quelles limites c'est utile ? À partir de quoi ça devient inutile ? À partir de quoi ça devient nuisible ? Cette question-là, ce n'est pas la question révolutionnaire. Quels sont mes droits originaires et comment est-ce que je peux les faire valoir en face de tout souverain ? C'est la question, donc, non pas révolutionnaire, mais c'est la question radicale. C'est la question du radicalisme anglais. Le problème du radicalisme anglais, c'est le problème de l'utilité. Ne pas croire que le radicalisme politique anglais n'est rien d'autre que la projection sur le plan politique d'une idéologie, disons, utilitariste. C'est au contraire. À partir d'une élaboration interne, qui n'en est pas moins une élaboration parfaitement réfléchie, qui n'en est pas moins une réflexion perpétuellement investie, traversée, etc., d'éléments philosophiques, théoriques, juridiques, etc. Donc, à partir de la pratique du gouvernement, définir quelle doit être sa sphère de compétence et la définir en termes d'utilité. À partir de quoi l'utilitarisme apparaît comme toute autre chose qu'une philosophie, toute autre chose qu'une idéologie. L'utilitarisme, c'est une technologie du gouvernement, tout comme le droit public était à l'époque de la raison d'État, la forme de réflexion ou, si vous voulez, la technologie juridique avec laquelle on essayait de limiter la ligne de pente indéfinie de la raison d'État. Une remarque à propos de ce mot de radicalisme, radical. Le radicalisme, le terme radical avait été employé en Angleterre pour désigner, et c'est ça qui est assez intéressant, pour désigner, le mot, je crois, date de la fin du XVIIe ou du XVIIIe. En tout cas, ça désignait à ce moment-là la position de ceux qui voulaient, en face des abus réels ou possibles du souverain, faire valoir les droits originaires, ces fameux droits originaires que les peuples anglo-saxons auraient détenus avant l'invasion par les Normands. Vous avez parlé de ça il y a deux ou trois ans. C'est ça le radicalisme. Ça consistait donc à faire valoir des droits originaires, au sens où le droit public dans ses réflexions historiques, pouvait repérer des droits fondamentaux. Maintenant, le radicalisme anglais, enfin, le mot radical, va désigner la position qui consiste à poser continuellement au gouvernement, à la gouvernementalité en général, la question de son utilité ou de sa non-utilité. Bon, deux voies donc. La voie révolutionnaire, articulée essentiellement sur les positions traditionnelles du droit public, et la voie radicale, articulée essentiellement sur l'économie nouvelle de la raison de gouverner. Deux voies qui impliquent deux conceptions de la loi, puisque d'un côté, dans la voie axiomatique révolutionnaire, si vous voulez, la loi va être conçue comme quoi ? Comme l'expression d'une volonté. On va donc avoir un système volonté-loi. Le problème de la volonté, vous le retrouvez bien sûr au cœur même de tous les problèmes de droit, ce qui authentifie encore le fait que cette problématique-là est une problématique fondamentalement juridique. La loi est donc conçue comme l'expression d'une volonté collective, manifestant la part de droit que les individus ont accepté de céder et la part qu'ils veulent réserver. Dans l'autre problématique, dans la voie radical utilitariste, eh bien la loi va être conçue comme l'effet de transaction qui va partager d'une part la sphère d'intervention de la puissance publique et d'autre part la sphère d'indépendance des individus. Et ceci nous conduit à une autre distinction également très importante, c'est que d'un côté, on va avoir une conception de la liberté qui est une conception juridique. Tout individu détient originairement par devers lui une certaine part, une certaine liberté dont il cédera ou non une certaine part. Et de l'autre, la liberté ne va pas être conçue comme l'exercice d'un certain nombre de droits fondamentaux. La liberté va être perçue simplement comme l'indépendance des gouvernés à l'égard des gouvernants. On a donc deux conceptions absolument hétérogènes de la liberté, l'une conçue à partir des droits de l'homme et l'autre perçue à partir de l'indépendance des gouvernés. Le système des droits de l'homme et le système de l'indépendance des gouvernés sont deux systèmes qui, je ne dis pas ne se pénètrent pas, mais qui ont originairement, qui ont une origine historique différente et qui comportent une hétérogénéité, un disparate qui est, je crois, essentiel. Le problème actuel de ce qu'on appelle les droits de l'homme, il suffirait de voir où, dans quel pays, comment, sous quelle forme on revendique, pour voir que de temps en temps, il est question, en effet, de la question juridique des droits de l'homme, et dans l'autre cas, il est question de cette autre chose, qui est par rapport à la gouvernementalité, l'affirmation ou la revendication de l'indépendance des gouvernants. Deux chemins pour constituer en droit la régulation de la puissance publique, deux conceptions de la loi, deux conceptions de la liberté. C'est cette ambiguïté même qui caractérise, disons, le libéralisme européen du 19e et encore du 20e siècle. Mais quand je dis deux chemins, quand je dis deux voies, quand je dis deux conceptions de la liberté, des droits, etc., je ne veux pas dire qu'il s'agit de deux systèmes séparés, étrangers, incompatibles, contradictoires, totalement exclusifs l'un de l'autre. Mais je veux dire qu'il y a là deux procédures, deux cohérences, deux manières de faire, si vous voulez, hétérogènes. Et ce dont il faut bien se souvenir, c'est que l'hétérogénéité n'est jamais un principe d'exclusion, ou si vous voulez encore, l'hétérogénéité n'empêche jamais ni la coexistence, ni la jonction, ni la connexion. Disons que c'est précisément là, et dans ce genre d'analyse, que l'on fait valoir, et qu'il faut faire valoir, sous peine de tomber dans les simplismes, une logique qui ne soit pas une logique dialectique. Car la logique dialectique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la logique dialectique, c'est une logique qui fait jouer des termes contradictoires dans l'élément de l'homogène. Et à cette logique de la dialectique, je vous propose de substituer plutôt ce que j'appellerais une logique de la stratégie. Et une logique de la stratégie ne fait pas valoir des termes contradictoires dans un élément de l'homogène qui promet leur résolution en une unité, la logique de la stratégie, elle a pour fonction d'établir quelles sont les connexions possibles entre des termes disparates et qui restent disparates. La logique de la stratégie, c'est la logique de la connexion de l'hétérogène et ce n'est pas la logique de l'homogénéisation du contradictoire. Rejetons donc la logique de la dialectique et essayons de voir comment on a pu se faire, enfin c'est ce que j'essaierai de vous montrer dans le cours, quelles sont les connexions qui ont pu faire tenir ensemble, qui ont pu faire se conjoindre une axiomatique fondamentale des droits de l'homme et le calcul utilitaire de l'indépendance des gouvernés. Oui, je voulais ajouter quelque chose là-dessus, mais je pense que ça serait trop long. J'y reviendrai donc par la suite. Je voudrais simplement, oui, maintenant, tout de même, à partir de cela, revenir un instant à ce que je vous disais en commençant à propos du marché. Ah si, tout de même, un point, non, là je reviendrai plus tard, mais que je veux tout de même souligner maintenant. C'est qu'entre ces deux systèmes hétérogènes, celui donc de l'axiomatique révolutionnaire du droit public et des droits de l'homme, et le chemin empirique et utilitaire qui définit à partir de la nécessaire limitation du gouvernement la sphère d'indépendance des gouvernés, entre ces deux systèmes, il y a bien sûr une connexion incessante, toute une série de ponts, de passerelles, de joints, etc. Par exemple, regardez l'histoire du droit de propriété, vous le verrez très bien fonctionner dans les deux trucs, et fonctionner de manière à joindre les deux trucs. Mais il est bien évident, et alors c'est de cela je vous parlerai dans le cours, il est bien évident que dans les deux systèmes, il y en a un qui a tenu et qui a été fort, et l'autre au contraire qui a régressé. Celui qui a tenu et celui qui a été fort, c'est bien entendu celui, la voie radicale qui consistait à essayer de définir la limitation juridique de la puissance publique en termes d'utilité gouvernementale. Et c'est cette ligne de pente-là qui va caractériser non seulement l'histoire du libéralisme européen proprement dit, mais l'histoire de la puissance publique en Occident. Bon. Et par conséquent, c'est bien ce problème de l'utilité individuelle et collective, de l'utilité de chacun et de tous, de l'utilité des individus et de l'utilité générale, c'est ce problème-là qui va être finalement le grand critère d'élaboration des limites de la puissance publique et de formation d'un droit public et d'un droit administratif. On est entré, depuis le début du XIXe siècle, dans un âge où le problème de l'utilité recouvre de plus en plus tous les problèmes traditionnels du droit. Bon, alors à partir de là, je voulais faire une remarque. Souvenez-vous tout à l'heure qu'à propos du marché, on avait trouvé qu'un des points d'ancrage de la nouvelle raison gouvernementale, c'était donc le marché. Le marché entendu comme mécanisme des échanges et lieu de véridiction quant au rapport de la valeur et du prix. Maintenant, on trouve un second point d'ancrage dans la nouvelle raison gouvernementale. Ce point d'ancrage, eh bien, c'est l'élaboration de la puissance publique et la mesure de ses interventions indexées sur le principe d'utilité. Échange du côté du marché, utilité du côté de la puissance publique. Valeur d'échange et véridiction spontanée des processus économiques, mesure d'utilité et juridiction interne des actes de la puissance publique. Échange pour les richesses, utilité pour la puissance publique, voilà comment la raison gouvernementale articule les principes fondamentaux de son auto-limitation. Échange d'un côté, utilité de l'autre, avec, vous voyez bien sûr, pour recouvrir le tout ou comme catégorie générale pour penser tout cela, et l'échange qu'il faut respecter dans le marché, puisque le marché est véridiction, utilité pour limiter la puissance publique, puisque celle-ci ne doit s'exercer que là où elle est positivement et précisément utile, eh bien la catégorie générale qui va recouvrir et l'échange et l'utilité, c'est bien entendu l'intérêt. l'intérêt, puisque c'est l'intérêt qui est principe de l'échange, et l'intérêt qui est critère d'utilité. La raison gouvernementale, dans sa forme moderne, dans celle qui s'établit au début du XVIIIe siècle, cette raison gouvernementale, qui a pour caractéristique fondamentale la recherche de son principe d'autolimitation, eh bien cette raison gouvernementale est une raison qui fonctionne à l'intérêt. Mais cet intérêt, ce n'est plus bien sûr celui de l'État entièrement référé à lui-même et qui ne cherche que sa croissance, sa richesse, sa population, sa puissance, comme c'était le cas dans la raison d'État. L'intérêt maintenant dont l'action gouvernementale doit, au principe duquel la raison gouvernementale doit obéir, cet intérêt, ce sont des intérêts, c'est un jeu complexe entre les intérêts individuels et collectifs, l'utilité sociale et le profit économique, entre l'équilibre du marché et le régime de la puissance publique, c'est un jeu complexe entre droits fondamentaux et indépendance des gouvernés, etc. Le gouvernement, en tout cas, le gouvernement dans cette nouvelle raison gouvernementale, c'est quelque chose qui manipule des intérêts, plus précisément. On peut dire ceci, et que les intérêts, c'est au fond ce par quoi le gouvernement peut avoir prise sur toutes ces choses que sont pour lui les individus, les actes de parole, les richesses, les ressources, la propriété, les droits, etc. Plus clairement, si vous voulez, terme très simple. Disons que dans un système comme le système précédent, le souverain, le monarque, l'État, il avait prise, et il avait droit, et il était légitimé, il était fondé à avoir prise sur quoi ? Eh bien sur les choses, sur les terres. Le roi était souvent, pas toujours, considéré comme propriétaire du royaume, c'était à ce titre qu'il pouvait intervenir, ou il était en tout cas propriétaire d'un domaine. Il pouvait avoir prise sur les sujets, puisque en tant que sujet, le sujet avait au souverain un certain rapport personnel qui faisait que le souverain pouvait, quels que soient les droits du sujet eux-mêmes, avoir prise sur lui. Autrement dit, vous aviez une prise directe du pouvoir, sous la forme du souverain, sous la forme de ses ministres, une prise directe du gouvernement sur les choses et sur les gens. À partir de la nouvelle raison gouvernementale. Et c'est là le point de décollage entre l'ancienne et la nouvelle, celle de la raison d'État et celle de la raison du moindre État. Le décollage étant ceci, c'est que désormais, le gouvernement n'a plus à intervenir sur, n'a plus de prise directe sur les choses et sur les gens. Il ne peut avoir de prise, il n'est légitimé, fondé, en droit et en raison, à intervenir que dans la mesure où les intérêts, les jeux des intérêts rendent tel individu ou telle chose ou tel bien ou telle richesse ou tel processus d'un certain intérêt pour les individus ou pour l'ensemble des individus ou pour les intérêts affrontés de tel individu à l'intérêt de tous, etc. Le gouvernement ne s'intéresse qu'aux intérêts. Le gouvernement n'a de prise, enfin le nouveau gouvernement, la nouvelle raison gouvernementale n'a pas affaire à ce que j'appellerais ces choses en soi de la gouvernementalité, que sont les individus, que sont les choses, que sont les richesses, que sont les terres. Il n'a plus affaire à ces choses en soi, il a affaire à ces phénomènes de la politique et qui constituent précisément la politique et les enjeux de la politique à ces phénomènes que sont les intérêts. Ou ce par quoi tel individu, telle chose, telle richesse, etc., intéresse les autres individus ou la collectivité. On en a un exemple très frappant, je crois, à propos du système pénal. J'avais essayé de vous expliquer comment, dans la pénalité du XVIIe et du début du XVIIIe siècle encore, au fond, quand le souverain punissait, c'était ça la vraie raison du supplice, quand le souverain punissait, c'est qu'il intervenait, lui, individuellement, en quelque sorte, ou en tout cas en tant que souverain, mais si vous voulez, il intervenait physiquement sur le corps même de l'individu. Et c'est ça qui lui donnait le droit du supplice, et le droit du supplice public. Manifestation du souverain lui-même sur quelqu'un qui avait commis un crime et qui, en commettant un crime, avait bien entendu lésé un certain nombre de gens, mais avait atteint le souverain dans le corps même de sa puissance. Et c'était là le lieu de formation, de justification, le fondement même du supplice. À partir du XVIIIe siècle, alors là, ça apparaît très clairement chez Beccaria. Ce fameux principe de la douceur des peines, encore une fois, bon, c'est entendu, ça ne se réfère pas à quelque chose dans le changement de la sensibilité des gens. Ce principe de la modération des peines, au fond, il repose sur quoi, si on voulait l'analyser mieux que je ne l'ai fait? Eh bien, ce serait ceci, que c'est interposé entre le crime, d'une part, et le souverain qui a le droit de le punir, ou l'autorité souveraine qui a le droit de le punir, éventuellement de punir de mort, interposé quoi? La mince pellicule phénoménale des intérêts qui sont désormais la seule chose sur quoi la raison gouvernementale puisse avoir prise. Et du coup, la punition apparaît comme devant être calculée en fonction, bien sûr, des intérêts de la personne lésée, réparation des dommages, etc. Mais la punition ne doit plus s'enraciner que dans le jeu des intérêts des autres, de l'entourage, de la société, etc. Est-ce que c'est intéressant de punir? Quel intérêt ça a? Quelle forme la punition doit-elle avoir pour que ça soit intéressant pour la société? Est-ce que c'est intéressant de supplicier? Ou est-ce que c'est intéressant de rééduquer? Et de rééduquer comment? Et jusqu'à quel point? Etc. Et combien ça coûtera? L'insertion de cette pellicule phénoménale de l'intérêt comme constituant la seule sphère, ou plutôt la seule surface d'intervention possible du gouvernement, c'est ça qui explique ces mutations qui toutes doivent être, vous le voyez, référées à ce réaménagement de la raison gouvernementale. Le gouvernement, dans son nouveau régime, c'est au fond quelque chose qui n'a plus à s'exercer sur des sujets et sur des choses assujetties à travers ces sujets. Le gouvernement, eh bien, il va s'exercer maintenant sur ce qu'on pourrait appeler la république phénoménale des intérêts. Et c'est là que se trouve la question du libéralisme, question fondamentale du libéralisme: quelle est la valeur d'utilité du gouvernement et de toutes les actions du gouvernement dans une société où c'est l'échange qui détermine la vraie valeur des choses? Valeur d'utilité du gouvernement en face d'un système où c'est l'échange qui détermine la vraie valeur des choses. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, je crois que c'est là que se posent les questions fondamentales du libéralisme. C'est là que le libéralisme à poser la question fondamentale du gouvernement, le problème étant de savoir si toutes les formes politiques, économiques, etc., que l'on a voulu opposer au libéralisme peuvent effectivement échapper à cette question et à la formulation de cette question de l'utilité d'un gouvernement dans un régime où c'est la valeur d'échange, où c'est l'échange qui détermine la valeur des choses. Bon. Ben voilà. Alors, attendez-vous. Bon.